Passé, présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Un invité aujourd'hui, Michel Wekel, pour le livre qu'il publie aux éditions La Nuée Bleue, Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, avec un sous-titre Enquête sur les secrets de famille du réseau luthérien. Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pasteur, je tiens à le préciser, parce que ça me paraît important dans le contexte du sujet que nous allons aborder maintenant. Pourquoi un tel ouvrage qui manquait à l'étude historique de la Seconde Guerre mondiale en Alsace.
Mais ce livre, je l'ai écrit parce qu'il manquait. C'est-à-dire que cette histoire spécifique d'une partie du luthéranisme alsacien, et disons tout de suite qu'il ne s'agit pas du luthéranisme dans son ensemble, mais qu'il s'agit d'une partie du luthéranisme alsacien, même si c'est une partie significative, cette histoire n'a jamais fait l'objet d'une étude publique et c'est un sujet qui a été recouvert depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 par une véritable chape de plomb et de silence. C'est une histoire dont on n'a jamais parlé.
Alors, il y a quand même un événement qui va déclencher la possibilité de cet ouvrage. C'est l'arrêté ministériel du 24 décembre 2015. Qui ouvre l'accès aux archives de la Seconde Guerre mondiale.
Alors cet arrêté ouvre l'accès aux archives, notamment de l'épuration. Donc effectivement, pour moi, c'était très important, puisque ça m'a permis d'accéder à des dossiers individuels de pasteurs. Il n'y a pas que des pasteurs, il y a aussi des avocats, des médecins, des universitaires qui ont trempé dans cette histoire et qui ont fait l'objet de sanctions, parfois assez lourdes, assez sévères, au moment de l'épuration. Et effectivement, ces archives n'ont été ouvertes qu'en décembre 2015, mais au moment où j'ai commencé mon travail de recherche et de réflexion sur cette période, je ne savais pas qu'il en était ainsi. C'est-à-dire j'ai découvert, pendant que j'avais commencé ma recherche, que l'accès aux archives, effectivement, était maintenant possible. Je ne suis pas parti de cet événement de l'accès aux archives pour commencer ma recherche. Elle était déjà entamée et c'est seulement dans un deuxième temps que j'ai compris que les dossiers de l'épuration étaient maintenant accessibles. Vous savez, je ne suis pas un historien professionnel, donc ça a joué un grand rôle dans mon travail de recherche que de pouvoir consulter tous ces dossiers.
Alors ces protestants, il n'y a pas que des pasteurs, vous le rappeliez,
oui.
Qui se sont fourvoyés, le terme est peut-être faible, avant déjà la Seconde Guerre mondiale pour beaucoup, c'est-à-dire au moment où l'autonomisme alsacien grandit et se rapproche des thèses du parti nazi en Allemagne, et puis bien évidemment durant la Seconde Guerre mondiale, ces protestants sont quand même pour beaucoup circonscrit dans une zone géographique bien particulière de l'Alsace. Certes, il y a des Strasbourgeois, on y reviendra, mais c'est quand même beaucoup du côté des Vosges du Nord qu'on les retrouve.
Alors, on les retrouve principalement dans les Vosges du Nord, c'est-à-dire en Alsace-Bossue, dans le pays de Hanau, et aussi dans le pays de l'Outre-Forêt, dans la région de Wissembourg, où d'ailleurs il n'y a pas que des luthériens, puisque dans la région de Wissembourg, il y a aussi des calvinistes. Disons-le
tout de
suite.
C'est le produit de l'histoire. C'est le repeuplement d'après la guerre de 30 ans.
Voilà. Alors disons, évoquons-les tout de suite, parce que ce n'est pas une histoire qui, à cet endroit-là, est spécifique aux luthériens. J'ai des témoignages qui montrent que des pasteurs calvinistes de la région de l'Outre-Forêt ont tout autant été impliqués dans cette forme de compromission avec l'idéologie nazie que leurs collègues luthériens. Mais enfin, nous sommes dans une région qui est à dominante luthérienne du point de vue historique et sociologique. Donc effectivement, il y a une mouvance luthérienne qui est très pro-allemande, en particulier dans ces régions-là. Mais là aussi, il ne faut pas cantonner le problème aux Vosges du Nord. J'ai aussi entré des témoignages, j'ai parlé avec des gens qui me racontent des choses qui se sont passées dans le Haut-Rhin, du côté de Colmar, et notamment de la vallée de Münster, où le sentiment luthérien pro-allemand était également très très fort. Mais il est vrai que dans mon livre, je me suis focalisé sur le terroir, disons, dans lequel cette problématique a été la plus intense, encore une fois l'Alsace-Bossue, le pays de Hanau et l'Outre-Forêt.
Au moment de la libération, certains officiers supérieurs français proposaient de déporter la population du canton de la Petite Pierre.
Oui, oui, pas seulement...
Parce que trop inféodé à l'ordre germanique.
Oui, il y a eu un rapport militaire que je cite dans le livre d'un officier qui dit « De toute façon, ces gens sont tellement pro-allemands de cœur qu'on ne pourra jamais les intégrer dans le cadre de la République » et l'hypothèse a été évoquée pas de les déporter, mais en tout cas de les déplacer vers le sud-ouest de la France ou vers d'autres régions. Pas seulement en Alsace-Bossue et dans le pays de Hanau, aussi plus près, proche de Strasbourg, dans des localités comme Fürdenheim, Ittenheim, où apparemment les gens avaient des sentiments très très pro-allemands.
Alors il y a un creuset de ce luthéranisme radical. C'est une corporation étudiante. Fondée le 12 novembre 1857, on sait combien les universités allemandes sont structurées autour de ces corporations étudiantes, mais là on a une corporation qui va incarner le luthéranisme radical, l'ultra-luthéranisme, comme oui. Vous le dites dans votre livre, c'est la corporation Argentina.
Oui. Et c'est très intéressant que vous citiez la date de la création de cette corporation en 1857, parce qu'à cette époque-là, nous sommes avant 1870. Vous voyez ? Je fais cette remarque chronologique parce qu'elle est très importante. C'est-à-dire, il y a des gens qui me disent « Oui, mais tu comprends, tous ces luthériens alsaciens sont nés pendant la période du Reichsland, après 1870. On peut comprendre culturellement qu'ils aient ce rapport à la langue allemande, à la culture allemande, parce qu'ils sont nés à cette époque-là, etc. » C'est en partie vrai, sauf à considérer que déjà en 1857, donc au moment où cette corporation Argentina est créée, ils étaient déjà, alors qu'ils étaient français à l'époque, ils étaient déjà dans une forme de radicalisme, pour ne pas dire d'extrémisme, d'ailleurs pro-allemand absolument avéré. Et les statuts de la corporation le disent, ils se définissent comme un bastion du Deutschtum, c'est-à-dire de la germanité en Alsace.
Les fondateurs sont deux pasteurs protestants.
Alors, les fondateurs sont des pasteurs protestants. Cette corporation... il y avait d'autres corporations étudiantes, mais celle-là joue un rôle particulier parce que ce qui m'est apparu dans ma recherche, c'est que les principaux personnages qui se sont par la suite compromis avec le régime nazi, des universitaires, beaucoup de pasteurs notamment, sont tous issus, la majorité, l'extraordinaire majorité d'entre eux, sont issus de cette corporation. Eux-mêmes ou leur père, voire leur grand-père dans certains cas. Donc cette corporation Argentina a effectivement joué un rôle très important sur le plan de la propagation idéologique, je dirais théologico-politique, du sentiment pro-allemand dans les milieux luthériens.
Alors il y a une autre institution qui va constituer ce rôle de catalyseur des protestants, je dirais, engagés d'abord dans l'autonomisme alsacien, puis dans la collaboration, c'est le Jungmannschaft, fondé par un avocat strasbourgeois, Hermann Bickler, qui lui est un nazi fanatique.
Oui, je pense qu'on peut le caractériser comme ça. Bickler faisait partie de la corporation Argentina d'ailleurs. Alors il n'était pas, pour la petite histoire, il n'était pas luthérien lui. C'était un ménonite originaire du pays de Bitche. Mais je pense que du point de vue de sa théologie personnelle, il a épousé en fait la cause luthérienne et ça a été une des figures de proue de cette mouvance. Bickler était avocat à Strasbourg, associé à un autre personnage, avocat également, qui était Peter Biber, lequel a d'ailleurs aussi été lourdement condamné à la libération. Et il il créait cette organisation dont j'avais pour ma part jamais entendu parler, mais qui était une organisation extrêmement importante dans les régions que nous avons mentionnées.
Paramilitaire.
Alors sur le modèle de la Hitlerjugend, avec des uniformes, avec des drapeaux, un brassard, le fameux sigle du Wolfsangel, c'est-à-dire l'hameçon du loup qui figure sur la couverture de mon livre, qui est un S barré et qui est resté jusqu'à aujourd'hui encore un sigle de ralliement d'un certain nombre de groupes néo-nazis en Europe. J'ai d'ailleurs découvert, soit dit en passant, que c'est le sigle de la division ukrainienne Azov, qui défraye aussi la chronique à l'occasion. Et c'était aussi le sigle de certaines divisions SS, c'était un sigle qui était déjà en usage aussi dans la Hitlerjugend naissante à l'époque. Je me permets d'insister sur l'importance de ce sigle parce que c'est une importance symbolique qui montre qu'au moment où les créateurs de la Jungmannschaft, qui se prétendent apolitiques, mais ça c'est pas la réalité, ils sont très politiques en fait, au moment où ils décident d'utiliser ce sigle, ils savent exactement ce qu'ils font, puisque c'est un sigle qui est utilisé déjà à grande échelle par les nazis en Allemagne.
Et d'ailleurs, le 29 septembre 1940, Bickler annonce que la Jungmannschaft intègre le parti nazi, se fonde dans le parti nazi.
Oui.
Et c'est en quelque sorte le fer de lance, en tout cas ce que vous dites dans le livre, Michel, de la mouvance régionaliste protestante.
Oui, oui, on peut le voir comme un fer de lance. C'est l'émanation idéologique extrême, finalement, de toute cette affaire. Encore une fois, ils sont calqués sur le modèle de la Hitlerjugend. Il y a des rassemblements. Alors, il y a un endroit dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent. Il y a un rassemblement très important de la Jungmannschaft au château de la Hüneburg.
On parlera dans un instant.
Qui sera le haut lieu de toute cette mouvance. Et la Jungmannschaft, pour donner une idée, c'est, selon les historiens, entre 1000 et 2000 membres, avec quelque chose comme 200, 250 sections locales dans les villages. Et même à petite échelle, en regardant l'histoire de certains villages en Alsace-Bossue, on voit très bien que les Ortsgruppenleiter, ou tous ces gens-là qui s'engageront de manière active dans le dispositif administratif nazi, sont pour une bonne part issus directement de la Jungmannschaft. Ce sont donc des membres de la Jungmannschaft. Donc en fait, la Jungmannschaft a préparé le terrain, et elle a préparé le terrain du point de vue idéologique, du point de vue théologique aussi, puisque tous ces gens-là, rappelons-le, étaient des luthériens convaincus, des gens très très pieux par ailleurs, et puis elle a préparé le terrain sur le plan organisationnel en fournissant, si je puis dire, à l'occupant nazi, un certain nombre de cadres locaux.
Nous reparlons de ce sujet passionnant et ô combien délicat. Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, c'est le titre de votre livre, Michel Weckel, paru aux éditions La Nuée Bleue, dans un instant, après une première pause musicale. Alors, qui dit protestantisme dit Jean-Sébastien Bach. Et je vous propose d'écouter pour commencer la variation Goldberg numéro 25.
Thank you.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. J'ai le plaisir d'accueillir en studio Michel Deckel, qui publie aux éditions La Nuée Bleue ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, sous-titré « Enquête sur les secrets de famille du réseau luthérien ». Secrets de famille, car on ne s'aperçoit en vous lisant qu'il y a des dynasties de pasteurs. Et c'est encore vrai aujourd'hui, Michel.
Oui, oui. Alors, je le dis d'autant plus que je ne suis pas issu moi-même d'une de ces dynasties. Ça a donc aussi été tout au long de ma vie dans l'Église protestante une découverte. Je savais qu'un certain nombre de familles pastorales sont liées entre elles. On est parfois, dans certaines familles, pasteur de père en fils pendant des générations, parfois même pendant des siècles dans certains cas. Mais je n'imaginais pas complètement l'ampleur et l'importance de ces dynasties. Mon travail de recherche m'a mené de surprise en surprise quand j'ai découvert que, tiens, entre telle famille et telle famille, il existe encore des liens parce qu'on s'est marié entre soi. Il y a une espèce d'endogamie luthérienne en Alsace qui n'est peut-être pas spécifique au monde protestant luthérien. On trouve les mêmes réflexes, disons, de reproduction sociale, comme disent certains sociologues, dans d'autres milieux de la société. Mais c'est quand même assez frappant de constater cela dans le luthéranisme local.
Rappelons également que, d'un point de vue culturel et théologique, l'Église luthérienne repose très largement sur la langue allemande.
Oui, alors ça, c'est un élément idéologique très important, ce que vous venez de dire, parce que dans une certaine conception de la théologie luthérienne, la langue allemande est incontournable. Elle est, pour ainsi dire, elle occupe la première place. C'est comme si, à la limite, on ne pouvait dire des choses théologiques de manière valable et valide qu'en les disant en allemand. Parce que c'est la langue de Luther, parce que c'est la langue de la théologie luthérienne. Je crois que dans le registre des mouvances qui nous occupent, dans cette frange extrémiste ultra-luthérienne dont nous parlons, ce sentiment de la langue luthérienne allemande a été vraiment exacerbé, en fait. Et exacerbé jusqu'à un passé très récent. Moi, je parle aujourd'hui avec des gens qui ont 45, 50 ans et qui me racontent que lorsqu'ils ont fait leur confirmation dans les années 80, ils devaient encore apprendre par cœur et réciter par cœur le petit catéchisme de Luther en allemand, ce qui, dans notre région à cette époque-là, contemporaine, me paraît quand même d'un anachronisme absolu.
Alors Luther a également tenu un discours sur les Juifs qui est plus que problématique. Le jeune Luther est très ouvert sur la question du judaïsme, persuadé qu'il sera en mesure de faire ce que l'Église catholique n'a pas su réaliser, c'est-à-dire un dialogue, voire même une conversion des Juifs à la théologie protestante. Mais à la fin de sa vie, hein, 1543, au premier jour de 1546, ce sont des écrits d'une violence inouïe à l'encontre des Juifs.
Oui, je pense qu'il y a chez Luther, vers la fin de sa vie, une sorte de dépit qui est terrible. C'est-à-dire, il avait cette représentation que, forcément, dans une logique évangélique chrétienne, le salut en Jésus-Christ doit être valable pour chaque être sur la planète, en quelque sorte. Et en qualité de peuple élu, tel qu'on en a communément la représentation dans le christianisme, les Juifs n'ont pas reconnu Jésus dans cette figure, dans ce rôle du Christ. Et l'espérance de Luther était que, en remettant, pour ainsi dire, le message, en restituant le message de l'Évangile dans sa pureté originelle, les Juifs allaient pouvoir enfin, historiquement, devenir des chrétiens, ce qui était, selon lui, leur vocation initiale. Mais les Juifs sont restés Juifs, et ça, quelque part, ils ne pouvaient pas le leur pardonner. C'est absolument tragique comme conception des choses. Et ça l'a amené, à la fin de sa vie, à publier des textes qui sont d'une abjection absolue. Enfin, je donne quelques extraits de ces textes dans mon livre. Et il ne suffit pas de dire « oui, on sait que Luther a écrit des choses problématiques sur les Juifs ». Il faut vraiment lire ce qu'il a écrit pour se rendre compte à quel point il est à ce moment-là dans une abjection absolue. Et les nazis ne s'y sont pas trompés, puisque les textes de Luther ont été abondamment repris 400 ans plus tard par le régime nazi quelqu'un comme Julius Streicher, par exemple, qui était un antisémite et qui s'occupait d'une revue nazie notoire, a déclaré lors de son procès, mais enfin, qu'avons-nous dit que Luther n'avait pas déjà dit avant nous ? Et le comble, c'est qu'il a raison au moment où il dit ça, c'est-à-dire que Luther était déjà dans une haine absolue du judaïsme et des juifs, allant jusqu'à proposer qu'on brûle les Torahs, qu'on détruise les synagogues, qu'on chasse les juifs à coups de bâton, voire qu'on les assassine, etc. Enfin, c'est vraiment un aspect du luthéranisme et du protestantisme en général qui est extrêmement pénible. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule façon de dépasser cela, c'est d'oser dire ce que ça a été.
Et n'a été dénoncé que très tardivement par l'Église.
Alors nous sommes en Alsace, nous ne sommes jamais des précurseurs, me semble-t-il, en Alsace. En tout cas, je parle de l'Église protestante. Et effectivement, pour que ces textes de Luther puissent être abordés publiquement, dans une déclaration commune avec la communauté juive d'ailleurs, il a fallu attendre 2017, ce qui était très tardif.
La fameuse année Luther.
Oui, oui, oui. Alors qu'ailleurs en Europe ou dans le monde, les églises luthériennes avaient déjà depuis très longtemps fait le point sur toutes cette affaire.
Alors il y a un lieu qui est identitaire de cette réalité de l'engagement des protestants aux côtés des nazis, c'est la Hunebourg.
Oui, le château de la Hunebourg.
Qui est une ruine en 1932 lorsque elle est acquise par Fritz Spiesser, qui est un personnage dont il faut parler.
Oui, la Hunebourg, c'est une ruine comme il y en a de très nombreuses dans les Vosges du Nord, dans le Palatinat et ailleurs. Fritz Spiesser était le fils d'un pasteur de Waldtambach en Alsace-Bossue, qui lui-même, le père Spiesser, était déjà un militant régionaliste pro-allemand déjà au début du siècle. Et Spiesser a repris le flambeau et est devenu l'un des personnages marquants de toute cette histoire. Spiesser était un peu un mégalomane, il se rêvait une destinée aristocratique. Lui, le petit-fils, le fils d'un petit pasteur de Waldtambach, s'imaginait dans le rôle d'un aristocrate qui jouerait un rôle décisif dans l'histoire alsacienne contemporaine. Alors il a épousé une comtesse prussienne, Agnès Tsudona Schlobiten, avec la fortune de laquelle il a commencé à réhabiliter cette ruine de la Hunebourg qu'il avait acquise au début des années 30, en se heurtant d'ailleurs à beaucoup d'opposition, à beaucoup de difficultés qui lui étaient faites par l'administration française, parce qu'il était connu comme le loup blanc, et l'administration française voyait très très bien dans les années 30 ce qui était en train de se jouer en termes de militantisme régionaliste autour de cette affaire. Mais enfin, il a réussi quand même à faire passer ce projet et il a reconstruit ce château de la Hunebourg qui se trouve dans la forêt au-dessus de Dossenheim sur Zinsel et Neuwiller-les-Savernes. Et il s'y est installé avec sa comtesse d'épouse, ils ont eu 4 enfants. Et la Hunebourg est devenue, au cours des années 30, le haut lieu du militantisme luthérien, pro-allemand, voire pro-nazi. Donc c'est un lieu où il y a eu de nombreuses réunions, de nombreuses rencontres, des créations d'organisations, les Wandervögel, le Bund Erwin von Steinbach, qui étaient des organisations de jeunesse qui prétendaient faire de l'animation culturelle et folklorique. Mais on voit bien que...
Très orienté en tout cas.
Mais tout ça était évidemment très orienté. Le folklore et la culture avaient évidemment comme but ultime de propager une certaine idéologie. Voilà. Et la Hunebourg a été le haut lieu de toute cette affaire. Des rassemblements nazis ont eu lieu à la Hunebourg à partir de 40. Et notamment, je suis assez fier de ma trouvaille, j'ai trouvé sur Internet une photo absolument inédite que mes interlocuteurs historiens me disent ne pas connaître à l'époque, à savoir la visite faite par Heinrich Himmler en personne.
Le 6 septembre 1940.
Ouais, le 6 septembre 40, Heinrich Himmler en personne vient rendre visite à Fritz Spiesser à la Hunebourg. Et ce jour-là, Himmler nomme dans la SS, à des grades relativement significatifs, Spiesser, Bickler, enfin une demi-douzaine de ces personnages luthériens de ces différentes mouvances.
Autre événement très important qui a lieu à la Hunebourg, cette fois-ci le 19 juin 1941, c'est l'inhumation de Karl Rahus. Et il faut parler de Karl Rahus, que les nazis voulaient initialement inhumer place Kléber à l'emplacement de la sépulture du général.
Alors Karl Rose était un militant régionaliste qui a été fusillé par les Français qui, pour espionnage. On considérait que Rose était un homme de la cinquième colonne, quelqu'un qui était au service de l'Allemagne. Il y a encore des polémiques aujourd'hui d'ailleurs concernant Rose. Hein. Il y a,
Rose qui était conseiller municipal de Strasbourg.
Oui. Mais l'affaire Rose n'est toujours pas soldée, en quelque sorte. Il y a encore des interprétations. Par exemple, Bernard Wittmann a écrit un bouquin sur Rose, je crois que c'était à la fin de l'année 2020, en disant Karl Rose, un autre Dreyfus, un Dreyfus alsacien. Bon, voilà, juste
en
pour
tout cas,
dire...
il a été récupéré par les nazis.
En tout cas, quoi qu'il en soit, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'affaire Rose, mais ce qui est certain, c'est que Rose a été récupéré par les nazis, et donc symboliquement inhumé dans le donjon...
La place Weber devient la place Karl Rose.
Oui. C'est ça. Et le cercueil de Rose est acheminé à la Hunebourg en 1941 et donne lieu à une grande cérémonie nazie avec des centaines de personnes venues d'Alsace, du Bade-Wurtemberg, tout le Gotha national-socialiste est là et dans la foule évidemment et parfois au premier rang. Les protagonistes de notre histoire, c'est-à-dire tous ces luthériens alsaciens investis dans toutes ces mouvances qui applaudissent et qui font le salut nazi devant le cercueil de Rose.
Michel, nous allons marquer une nouvelle pause musicale avant de parler de quelques figures marquantes de collaboration des protestants luthériens avec les nazis. C'est toujours Jean-Sébastien Bach. Nous écoutons le mouvement Presto Allegro de la sonate en B mineur. Et ensuite, nous retrouvons Michel Weckel pour évoquer le livre qu'il vient de publier aux éditions La Nuée Bleue. Thank you. Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité aujourd'hui, Michel Weckel, pasteur protestant, qui publie aux éditions La Nuée Bleue ses protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler, sous-titré « Enquête sur les secrets de famille du réseau luthérien ». Alors j'aimerais, Michel, qu'on revienne sur quelques figures marquantes de cette époque, et en particulier celle de Karl Maurer, qui est le président de l'église de la confession d'Augsbourg, imposée par les nazis.
Oui, Karl Maurer devient à partir de 40 président de l'église luthérienne, donc de la confession d'Augsbourg, en lien avec les nazis. Je découvre d'ailleurs dans un écrit que j'ai utilisé par rapport à mon livre que apparemment sa nomination en 40 à la direction de l'église protestante a fait l'objet d'une tractation déjà avant l'arrivée des Allemands en 40.
Il était à Baden-Baden.
Oui, à Baden-Baden, semble-t-il, dans un parc avec le principal interlocuteur de toute cette mouvance luthérienne régionaliste pro-allemande, qui était le fameux docteur Robert Ernst, qui était vraiment l'interlocuteur de cette mouvance en Allemagne.
Il sera maire de Strasbourg.
Oui, et qui a joué un rôle assez éminent déjà avant la guerre, puisque ce qu'on n'a pas encore abordé, je le dis juste en passant, en parlant tout à l'heure de Spitzer qui a reconstruit la Hunebourg, toute cette mouvance est financée par les Allemands déjà dans les années 20, entre les deux guerres. Ils touchent beaucoup d'argent d'une organisation allemande pour l'Allemagne à l'étranger, pour les Allemands à l'étranger. Et j'évoque ça parce qu'il se trouve que Karl Maurer a été le trésorier de cette mouvance. Donc Karl Maurer...
C'est pas un inconnu,
c'est un militant qui est apprécié par les Allemands, c'est pour la raison pour laquelle il devient président de l'Église luthérienne. C'est un pasteur, oui. Un pasteur très engagé, qui était pasteur en Alsace-Bossu. C'est quelqu'un qui joue un rôle assez important dans toute cette histoire, déjà entre les deux guerres, mais qui a surtout des convictions très, très, très pan-germanistes, hein, comme tous les autres. Et donc, il se retrouve à la tête de l'Église luthérienne. La question que je me pose est de savoir jusqu'à quel point Maurer a eu des sympathies nazies, ou pas, ou plus. C'est-à-dire qu'à mon avis, il fait partie, peut-être comme d'autres d'ailleurs, de ces gens qui ont acclamé Hitler et les Allemands en 40, étant heureux de voir l'Alsace revenir dans le Reich allemand, mais qui, je le dis à un moment donné dans le livre, qui à partir du moment où ils ont eu les vrais nazis en face d'eux, ont progressivement changé d'avis. C'est-à-dire que Maurer a été très souvent en contact avec le Gauleiter Wagner, qui le qualifiait d'ailleurs de Schlauerfuchs, il disait de Maurer, si c'est un Schlauerfuchs, c'est-à-dire c'est un renard rusé, parce que Maurer, et ceci est avéré dans certains textes, Maurer a aussi pu utiliser sa position de président d'église pour sauver la mise à un certain nombre de pasteurs ou de fils de pasteurs qui étaient dans le collimateur des nazis. Et donc, il a joué un peu double jeu. Mais je pense que sa position était influencée par le fait qu'il a assez vite compris quelle était la nature profonde du régime nazi. Et mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est la mienne, c'est qu'il n'est pas resté nazi. À supposer qu'il ait été vraiment nazi, il ne l'est pas resté. Et je pense qu'en 1945, il ne l'était plus, en tout état de cause. Par contre... il est resté ce qu'il avait été depuis sa jeunesse, c'est-à-dire un militant pan-germaniste, convaincu de l'identité intangible allemande de l'Alsace, de la destinée allemande de l'Alsace. Et c'est d'ailleurs un propos qu'il a tenu en 46 ou 47, je crois, qu'il a remis dans le collimateur des autorités. Et il n'a été jugé que bien des années après la guerre, parce qu'il a dit dans une réunion que l'Alsace était une terre allemande, etc. Et ça, dans le contexte de l'après-guerre, ça a assez mal passé. Mais là, on est dans l'ambivalence de tous ces gens, dont certains, selon moi, n'étaient pas des vrais nazis. Ce sont des gens qui ont été à un moment donné fascinés par Hitler et par le nazisme, qui ont peut-être, pour certains d'entre eux, déchanté, d'autres pas. À mon avis, d'autres sont restés nazis, mais certains ont déchanté. Je pense que Maurer fait partie de cette catégorie-là. Et il a été jugé...
Alors, il est jugé à Metz, en 1947.
Oui.
Il est condamné à 5 ans de prison, à la confiscation de ses biens, oui, et à 10 années d'interdiction de séjour,
oui,
en Alsace-Moselle. Mais il est gracié.
gracié 3 semaines après. Ce qui, à mon avis, était une manière pour les autorités françaises de dire ben voilà, ce monsieur s'est quand même pas mal compromis. Il y a dans mon livre des photos de son procès, enfin des photos du dossier, du procès de Metz, où on le voit au premier rang, à Strasbourg, au Palais des Fêtes, en compagnie des dignitaires nazis, en train de lever le bras, etc. Donc il y a quand même eu une vraie compromission avec le régime. Et en même temps, le fait qu'on le condamne pour ça et qu'on le gracie immédiatement après signifie que, bon, ben voilà, c'est. On parle quand même là aussi de gens qui ne sont pas des criminels de guerre. Ce sont des gens qui ont nagé en eau trouble, dont certains se sont vraiment compromis. Mais jusqu'à quel point étaient-ils d'authentiques nazis ou pas, ou plus, ça, c'est toute l'ambivalence de cette histoire.
Il s'exile en Haute-Saône, mais il revient mourir à Strasbourg.
Oui, parce qu'il tombe très vite malade et puis il décède à l'hôpital civil de Strasbourg, assez aigri et amer. Voilà.
Autre figure pastorale, là encore, August Friedrich Hirzel, pasteur de Herrnolzheim, les Savernes.
Oui, alors Hirzel, lui, c'est un enragé. Hein. C'est quelqu'un qui est un militant pro-allemand extrémiste, déjà tout de suite après la Première Guerre mondiale. Il fait partie de ces régionalistes qui sont dans le collimateur des autorités françaises, le procès de Colmar et toutes ces histoires-là. Donc, à un moment donné, Hirzel quitte sa paroisse d'Herrnolzheim-les-Savernes, il démissionne son ministère et puis il part en Allemagne. On est là à la fin des années 20 à peu près. Et il disparaît de la circulation parce qu'il rejoint l'Allemagne, qu'il considère être sa terre promise en quelque sorte. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on voit Hirzel revenir en Alsace en 40 dans l'uniforme de la Wehrmacht. Apparemment, il est aumônier militaire d'une unité de la Wehrmacht. Il y a une photo de Hirzel dans mon bouquin, où il a l'uniforme Feldgrau en train de parler avec un officier assez vivement, enfin apparemment tout à fait heureux de revenir en Alsace sous l'uniforme de la Wehrmacht. Mais Hirzel est un enragé dans cette histoire.
Et puis le pasteur de Célestat, Paul Frey.
Oui, alors Paul Frey...
Nazi notoire, lui aussi.
Alors, semble-t-il, c'était un nazi notoire. C'était quelqu'un, en tout cas, qui avait des convictions très nazies et qui, semble-t-il, les proclamait du haut de sa chair. Enfin, je n'ai malheureusement pas ses prédications. Je ne sais pas si on pourrait les trouver un jour quelque part. Mais il m'a été raconté qu'il était connu...
Par Marc Linhart.
Par Marc Linhart, oui.
Une conscience du protestantisme alsacien.
Si Linhart dit que Frey était vraiment nazi, c'est qu'il devait vraiment l'être, parce que Linhart, par ailleurs, trouve beaucoup de circonstances atténuantes à un certain nombre de personnages dans mon livre. Mais enfin, passons. Et Frey se fait prendre par des FFI, semble-t-il, à la Libération en 1945, et se voit obligé, alors ça c'est un peu cocasse, ça prête à sourire, se voit obligé comme punition de balayer pendant des semaines les rues de Célestat avec une pancarte accrochée sur le dos, « Das habe ich dem Führer zu verdanken ».
Je le dois au Führer.
C'est-à-dire ça, je le dois au Führer, quoi, voilà.
Alors, l'épuration, on l'a évoqué avec Karl Maurer de manière superficielle, mais a-t-elle été effective? Et beaucoup de ces protestants ont quitté l'Alsace en 1944 ou au début de 1945 pour se fondre dans le paysage allemand.
Alors, il y a eu différentes choses. Il y a eu d'abord un certain nombre de pasteurs ou de militants de ces organisations dont nous parlons qui s'étaient vraiment compromis et qui ont été condamnés en 1945-1946 par la justice. Donc, il y a eu des interdictions de séjour, des privations de droits civiques, des choses comme ça. Donc, il y a eu de vraies sanctions. Ensuite, il y a eu des mesures disciplinaires prises à l'interne de l'Église luthérienne. Parce que quand l'Église luthérienne est redevenue française, pourrait-on dire, l'administration de l'Église luthérienne a voulu faire le ménage. Et des pasteurs qui s'étaient un peu trop compromis avec le régime ou qui étaient trop pro-allemands ont été mutés dans des paroisses de moindre importance, comme par hasard en Alsace-Bossue par exemple, hein, où certains d'ailleurs n'ont plus jamais par la suite pu avoir des paroisses plus importantes. Donc ça, c'était des mesures de discipline interne. Ceux qui avaient été condamnés ont souvent été graciés dès 52-53 d'ailleurs, et beaucoup d'entre eux ont pu reprendre une activité à peu près normale. Mais il y a eu aussi un certain nombre de ces personnages qui ont pris la fuite en 1944 et qui se sont réfugiés en Allemagne, où ils se sont cachés, parfois pendant des années, parfois sous des pseudonymes, avant de refaire surface dans les années 50 et à la faveur des mesures d'amnistie qui avaient été prononcées en France. Mais certains, par choix, n'ont pas voulu revenir en Alsace, considérant que l'Alsace française, ce n'était plus leur pays. Et je donne l'exemple d'un certain nombre de pasteurs qui ont refait des carrières dans le Bade-Wurtemberg, notamment. Et Spieser, lui aussi, d'ailleurs, s'était caché pendant des années en Allemagne avant de racheter un nouveau château.
Fasciné par le monde médiéval.
Oui, oui, mais il avait envie d'être un seigneur, d'être un aristocrate. Et donc, il a racheté un château en Allemagne, à Stettelfels, à l'est de Karlsruhe, près de Heilbronn, où il a repris ses activités. Et je montre dans mon livre, j'ai eu des témoignages très directs, que dans ces dynasties luthériennes locales alsaciennes, beaucoup de gens continuaient jusque dans les années 50, 60, voire jusqu'au début des années 70, à rendre visite à Spieser, à Stettenfels, à faire chez lui leurs fêtes de famille, leurs séminaires, etc. etc. La confraternité luthérienne pro-allemande a continué d'être active et elle continue de l'être jusqu'à aujourd'hui. C'est aussi un autre aspect que ma recherche m'a révélé, c'est qu'aujourd'hui encore, au moment où nous parlons en 2022, il existe un certain nombre d'organisations à Francfort, à Stuttgart, qui sont des organisations animées par les descendants de ces personnages, qui continuent de publier et de militer pour l'Alsace allemande.
Nous arrivons au terme de cette émission, Michel, mais j'aimerais que nous puissions encore évoquer brièvement un autre aspect de la question, l'engagement de Pasteur dans la résistance. Il y a des cas célèbres du côté de Sainte-Marie-aux-Mines en particulier, et puis ce que vous mentionnez dans votre ouvrage, les pasteurs Bastion et Fricker en Alsace-Bossue.
Oui, oui, il y a eu. Alors, les courageux n'étaient pas les plus nombreux, hein. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que j'ai souhaité les mentionner. Il y a eu quelques pasteurs vraiment très engagés dans la résistance, le pasteur Bastion notamment, Fricker, qui se voit remettre la Légion d'honneur en 45 à Strasbourg par Leclerc en personne, en reconnaissance de son engagement dans la résistance. Et puis il y a un autre pasteur que j'aime beaucoup qui s'appelait Paul-Georges Corre, qui était actif dans des réseaux de la résistance du côté de Bar et de la Petite Pierre. Et son cas m'intéresse parce que lui, c'était un vrai germanophile, c'est-à-dire il était de culture allemande, c'était un spécialiste de Rainer Maria Rilke. Il avait vraiment cette culture allemande littéraire, et l'allemand était sa langue. Il a lui-même publié 6 ou 8 recueils de très bonne poésie en langue allemande.
Il ne s'est pas laissé tenter.
Et il ne s'est pas laissé tenter, il a fait le choix de la France. Il disait « l'Alsace est une tribu germanique qui a épousé la France » et je trouve ça magnifique.
Michel Weckel, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre que vous publiez aux éditions La Nuée Bleue, « Ces protestants alsaciens qui ont acclamé Hitler ». Nous nous séparons en musique avec toujours Jean-Sébastien Bach. Nous écoutons l'Allegro du premier concerto brandebourgeois.
Thank you.